Dans les studios de FM+, nouvelle émission avec le rédacteur en chef du CEP, le journal protestant régional, pour son numéro du mois de mars 2018. Bonjour Nicolas Boutier.
Bonjour Guylaine.
Alors Nicolas Boutier, vous signez comme dans votre comme à votre habitude l'édito de ce mois et vous nous en faites un cri, une prise de parole pour les femmes. Les femmes du monde prennent la parole, mais elles sont manipulées, nous dites-vous. Alors Nicolas Boutier, c'est une révolte. C'est vraiment un édito engagé là. Hein. Là, il n'y a pas de demi-mesure.
Je reconnais que c'est la première fois en fait. Je me suis lancé dans cet édito. En général, c'est plutôt des éditos sympas sur l'air du temps et ce qui pouvait se passer chez les protestants. Et puis, il a mis du temps à mûrir, je dois avouer. Parce que, ben, comme tout le monde, hein, j'ai assisté à ce qui s'est passé de hashtag balance ton porc à la prise de parole de Catherine Deneuve ou autre star américaine. Et en fait, je sais pas, j'écoutais les émissions passer à la radio, des choses comme ça. Et puis à un moment, je me suis dit, mais on parle de qui? On parle à qui? Et alors, on parle de stars qui ont des vies de stars et on sait qu'elles sont très très loin de la réalité de nos vies, de notre quotidien. Qu'elle soit américaine, française ou d'un autre pays. Et je me suis dit, mais on parle à ces femmes, très bien. Apparemment, certains metteurs en scène ou réalisateurs sont plutôt indélicats avec elles. Mais les femmes de tous les jours, on n'en parle jamais. On leur dit pas vraiment de s'exprimer, on leur laisse pas vraiment la parole. Et quand la parole est donnée, ce sont des hommes qui la donnent, souvent. Et j'ai même été un peu choqué sur une émission de France Inter où c'est une femme qui donnait la parole, mais aux hommes. Et je sais pas, ça a mis du temps, mais au bout d'un moment, j'ai dit là, ça suffit en fait. Je dis, c'est aux femmes à s'exprimer et aux femmes à dire ce qui va pas, ce qu'elles veulent. Et on a l'impression que elles sont encore un petit peu infantilisées en disant, on va vous dire ce qu'il faut que vous disiez. Et puis en plus, bon, vous avez un premier avis en disant c'est pas bien, ok, super. Ah, il y a un deuxième avis qui sort. Là, c'est pas bien quand même. Vous commencez à réfléchir, ça va plus. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a particulièrement choqué.
Ouais. Alors, vous utilisez même le terme de manipulation.
J'ai un peu l'impression, en fait, que les médias, pour le coup, on en fait partie, mais bon, je ne me sens pas toujours en relation avec certains de mes collègues. Voilà, utilise ça pour... on fait passer d'autres choses, hein. On sait souvent comment ça se passe. Hein. On utilise un sujet, on le fait monter en épingle, ça redescend comme un soufflet, puis on passe à autre chose. Et je trouve que le sujet est profond et fort. On pourrait entamer une véritable révolution des mœurs. Mais hier à la radio, j'entends une émission. Les oiseaux, par exemple, le mâle est toujours souvent très beau, avec plein de plumes de couleurs. Il fait une parade amoureuse. Mais c'est la femelle qui choisit. C'est jamais lui qui choisit. Et je me dis, si chez les humains on faisait la même chose, peut-être que ça laisserait le choix à l'un et à l'autre de décider comment séduire et comment aller ensemble. Et peut-être qu'il faut qu'on revienne à notre sphère animale et un peu moins intellectualiser tout ça et se dire, on est des êtres humains, on a des sentiments, on a envie d'avoir des relations, mais chacun doit se respecter.
Le thème retenu pour ce numéro, c'est la bienveillance.
C'est
presque, le grand écart avec l'édito. Mais c'est justement très intéressant. Alors, Christophe Jacon, qui est un habitué de vos lignes, qui est pasteur et rédacteur du journal Ensemble dans le Sud-Ouest, nous dit, c'est un sujet à la mode, comme si, c'est un sujet à la mode et... facile, comme ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, ça va passer, ça va retomber comme un soufflet. Est-ce que c'est ça que nous dit Christophe Jacon?
Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que c'est le terme bienveillance. En ce moment, il est sorti à toutes les sauces. Dès qu'on parle de quelqu'un, il est bienveillant. Moi-même, je le sors régulièrement en disant que mon employeur est bienveillant avec moi.
Il nous écoute probablement.
J'espère. Je pense que c'est le terme, l'idée qui est dans le temps, mais ça fait penser un peu à une espèce de révolution culturelle en train de se dire, on était très individualiste, et puis maintenant on se dit, peut-être qu'il faudrait penser à l'autre, à son voisin, à son prochain, il y a plein de choses qui se font. Alors malheureusement, on voit qu'avec le froid qui arrive sur la France, la bienveillance, elle n'est pas si proche que ça, ou à ses limites. C'est en effet, je pense que le terme, son utilisation, est peut-être dans l'actualité ou dans l'air du temps. Je sais pas si l'idée de la bienveillance va disparaître. On le voit d'ailleurs dans le dossier, elle est plus ancienne que ça. Mais le terme peut-être va lui-même disparaître. Ça pourrait faire presque un néologisme, même si ça n'est pas un, mais ça pourrait en être un.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des termes proches comme l'empathie qu'on utilise aussi dans d'autres circonstances.
Et l'empathie, pour moi, aurait une connotation un peu négative. Parfois, on dit ah, il faut avoir il faut avoir de la bienveillance avec l'autre. Mais l'empathie, ça veut dire qu'on va presque fusionner avec lui. On dit ah non, surtout pas, il faut garder ses distances. C'est mais ça. On a le droit d'être bienveillant, mais pas avoir d'empathie.
Ouais. Et puis, il y a peut-être aussi un autre terme. La pitié, qui serait peut-être un terme plus vieillot, mais qu'on n'utilise plus aujourd'hui, et qui pourtant serait peut-être un peu proche de la bienveillance, non ? Enfin, avec bien sûr des degrés différents.
J'ai pas pensé à ça, mais peut-être avec avec des degrés différents.
La pitié, surtout, il faut pas surtout pas avoir pitié de.
Ah, de c'est ça, c'est.
De quiconque, enfin, c'est avoir
c'est,
pitié.
C'est devenu très très négatif comme expression.
C'est ça.
Et en même temps.
Mais est-ce que c'est si loin que ça de la bienveillance ou de l'empathie, comme vous disiez tout à l'heure ?
Pour moi, la bienveillance, il y a un rapport à deux. Et l'empathie ou la pitié, il y a peut-être un. Alors, pas un rapport l'un au-dessus de l'autre, mais à un sens unique, peut-être. C'est peut-être l'idée que je vais, la différence que j'y verrai. Mais la bienveillance, je pense que c'est vraiment un travail à deux.
Alors, il y a un aspect de la bienveillance que vous traitez dans votre dossier qui m'a surprise, ce qui est l'hypnose. Je ne m'attendais pas du tout à ce lien entre la bienveillance et l'hypnose. Alors, j'ai oublié de noter l'auteur de l'article.
C'est le docteur Annelise Jacon-Emery, qui est l'épouse de Christophe Jacon, qui est chirurgien-dentiste à Brive. Et en fait, donc toute sa démarche, il y a une vraie démarche intellectuelle derrière cette prise de décision et de faire de l'hypnose. Ça part d'un constat assez simple. Quand vous allez chez le médecin, on vous demande où vous avez mal. Mais on ne vous demande jamais où vous allez bien. Et en fait, c'est plutôt que d'être dans quelque chose de négatif, on utilise quelque chose de positif et on crée une relation avec le patient en essayant d'utiliser des termes pour l'apaiser. Éviter sa peur, parce que finalement, cette peur, quand on crée une peur, ben vous vous tendez, vous êtes plein de tensions, et le soin est beaucoup plus douloureux. Alors que si vous apaisez le patient, si vous le rassurez, déjà les choses se passent mieux. Et c'est là que commence l'hypnose. Et c'est assez intéressant de se dire que finalement, alors c'est original de se dire, tiens, on parle de ça, mais il y a un changement de regard de certains médecins, parce que là c'est un exemple de dentiste, mais on trouve ça à l'hôpital, on trouve ça chez des généralistes. Il y a un changement de regard sur le patient. Et c'est, je me trouve, assez intéressant.
C'était
d'ailleurs
très intéressant de cet angle-là.
Oui.
Alors, pour le contexte biblique de la bienveillance, nous avons l'article de Corinne Lanoir qui donne cette définition. La bienveillance, c'est faire crédit d'une épaisseur au texte comme aux gens, ne pas rester à la surface en pensant les avoir compris, sans prendre la peine de les écouter, d'entrer dans leur dynamique, leur tension et leur résistance, les respecter, parfois essayer de faire un bout de chemin avec eux en partageant des solidarités, des intérêts communs, des questions, en faisant état d'incompréhension et de divergence. Elle n'est pas belle cette phrase qui s'adapte au texte biblique dans le contexte. Alors, je trouve que ça donne aussi une idée de la façon dont Corinne Lanoir, finalement, reçoit les textes bibliques. Je trouve ça très intéressant aussi, cette façon de parler de...
Il y a un côté moderne, finalement, parce qu'on n'ose pas le dire que le texte biblique, parfois, il est un peu abrupt, c'est dur de rentrer dedans, c'est dur de le comprendre, mais finalement, si on se laisse porter, il y a des choses qui en sortent, et... bien sûr, ça va à l'encontre d'une lecture littérale. Hein. C'est qu'est-ce qu'il y a dans ce texte, qu'est-ce qu'il nous porte, qu'est-ce qu'il nous donne. Si on va gratter un peu à droite, à gauche, si on gratte dessous, dessus, qu'est-ce qui apparaît. Et finalement, le texte peut apporter ce côté bienveillant, ce côté soutien. Donc je trouve ça plutôt intéressant.
Voilà, et puis on entre en relation avec le texte.
C'est ça. On revient à cette histoire de deux, on est deux,
exact,
en fait, dans la relation de bienveillance.
Tout à fait. Alors peut-être on peut rappeler que Corinne Lanoir est professeure d'Ancien Testament à l'Institut protestant de théologie de Paris.
C'est ça.
Voilà. Un dossier, très intéressant par tous les faisceaux qui viennent éclairer la bienveillance.
Oui, et puis c'est assez amusant parce que le dernier article, c'est « Jésus était-il bienveillant ?» Parce que finalement, c'est quand même la question qu'on peut se poser. Et c'est assez rigolo parce que là où il vient un peu remuer, c'est qu'on aurait tendance à dire « Oui, Jésus, il est bienveillant, il est gentil avec les humains, il nous aime tous. » Et on finit dans quelque chose un peu cucu-gnan-gnan. Et en fait, c'est pas ça. Il est bienveillant avec nous parce qu'il nous remue, il nous oblige à bouger, il nous tape dessus en disant « Allez, remuez-vous, avancez. » Et c'est là où Jésus est bienveillant envers nous. Mmh. Et puis parce qu'on écoute ce qu'il nous dit aussi.
Voilà pour le dossier du CEP du mois de mars 2018. Une pause musicale pour nous retrouver sur la suite du journal.
Je me sens esselé dans la foule. Piano, piano, je prends la bouteille. Piano, piano, je perds la boule. Plus je roule ma bosse, plus je grille les footets. Je poursuis ma route, suivant ma propre boussole. C'est la panique à bord dans tout Bruxelles. Dur de garder l'esprit clair. J'essaie de porter le regard sur l'essentiel. Si tu te demandes pourquoi ta vie est casse-tête, c'est que la vie est un cercle. On répète les mêmes erreurs du landau au cercle. Que j'aurais entrepris. Je ride à PX dans le temps. Écoutons du dat dog pound avec ma bande. Ça fait comme dans le temps, je cruise comme Dre son gang. Dans comme dans les beat jazz, ronronne quand je débarque. Mais je braconne que les oiseaux rares. Elles valent pas un condom, toutes les tasses qui pour la couronne drague le roi. Les vrais, ça faut que je paye mes bulles. J'ai des tas de projets, j'ai les skills. Dès que j'ai de la monnaie, je l'investis dans la zig. Ne teste pas la Timothée, c'est la brique. Peut-être que l'avenir, on fera du fric. Please, je veux pas que le bise m'épuise. La richesse d'esprit, c'est ça que je vise. Je trim, faire de la musique, c'est pour ça que je vis. Salam à Moka Boka, à la fois calme et loca. J'aime les claps et les basses, ça de l'eau dans le gaz. Entre moi et cette société, car elle engendre de beaux salopards. Rythmé et douce comme la bossa nova. C'est comme ça que je vois la vie. Je mourrai pas pour la putain de Cosa Nostra. La vie en cercle, on fera tous naufrage. Cercle. On répète les mêmes erreurs du landau au cercle. Yeah. 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 La vie est un cercle. On répète les mêmes erreurs du landau au cercle.
Dans les studios de FM Plus 91 FM à Montpellier, Nicolas Boutier, rédacteur en chef du journal protestant régional des Cévennes Languedoc-Roussillon, le CEP. Alors Nicolas, j'ai constaté que vous signiez au moins 3 articles dans la suite du journal. Vous avez beaucoup travaillé, plus l'édito, hein, plus l'édito en ce mois de mars.
C'est un peu mon travail.
De faire des articles aussi ?
Oui, oui, de faire des articles, aussi, d'en récolter et d'en faire.
D'en faire.
Et les deux.
Donc là, je les ai bien repérés.
Je vois ça, oui.
Et je vous propose alors de nous en parler un peu, en commençant par l'article « Centre héros ». Alors, franchement, j'ai trouvé que ce vocabulaire était hermétique à qui n'est pas protestant depuis au moins le XVIe siècle. Le centre, l'ensemble centre héros.
C'est
Vasisdas.
Kézako.
Kézako.
Alors, en fait, ça reprend le découpage administratif de notre église. Donc, au sein de la région, il y a des consistoires et au sein des consistoires, il y a des paroisses. Et par manque de pasteurs, ces paroisses se réunissent et on a créé des ensembles. Et alors, l'ensemble centre héros, c'est vrai que comme ça, ça ne parle pas. C'est toute la région de Clermont-l'Hérault, Agnan, Saint-Guillaume-le-Désert, jusqu'à La Malou-les-Bains et même Bédarieux.
Donc ça, c'est une organisation qui permet de réunir des personnes qui étaient disséminées.
Exactement.
C'est ça ?
C'est plusieurs petites paroisses qui... je ne vais pas dire il y a un peu de monde finalement au culte, et plutôt que de dire bon ben voilà, on les laisse se perdre, on crée un ensemble, un pasteur sur l'ensemble, et puis une réorganisation administrative ou fonctionnelle qui permet d'avoir un culte régulier et finalement plus de présence au culte et moins de dissémination, malgré la taille impressionnante de l'ensemble. Parce que géographiquement, c'est impressionnant.
Oui. Alors, quand on parle de ça, de cet ensemble centre héros, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on en dit ?
Alors, en fait, ce qui m'a assez impressionné sur cet ensemble, j'ai voulu prendre un peu en exemple, c'est qu'ils sont arrivés justement à aller au bout de l'expérience ensemble. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas hésité à faire bouger leurs anciennes frontières. Quand le pasteur qui est en poste, Jean-Paul Nunez, est arrivé, c'était des petites paroisses disséminées qui ne voyaient jamais le pasteur parce que le temps qu'il se déplace de culte en culte, il le voyait une fois tous les 36 du mois. Il a dit, on va tout repenser. Donc ils ont repensé les lieux de culte, la régularité des cultes, ils ont repensé les activités pour que chacun, à courte distance, puisse se déplacer et se retrouver. Et ça fonctionne. Le monde, les participants ont augmenté, la régularité aussi des présences. Et puis il y a une nouvelle synergie qui s'est formée, avec des musiciens qui sont arrivés. Donc c'est vrai qu'un culte, entre un culte sans musicien et un culte avec musicien, on connaît la différence et on sait que c'est toujours plus agréable de chanter accompagné d'instruments. Et donc il y a toute une nouvelle énergie qui s'est mise en place et qui fait que cet ensemble fonctionne correctement et vit sa vie tranquille. Mmh.
Ça fonctionne du côté des pasteurs et du côté des paroissiens.
Exactement, des deux côtés. Alors c'est vrai que j'ai à la fin de l'article, je parle un peu du pasteur. C'est vrai que le reportage est plutôt sur l'ensemble et les paroisses, pas sur le pasteur. Mais quand même, il y a un peu un lien, parce que là, Jean-Paul Nunez est seul sur cet ensemble. Et c'est un peu un pasteur qui dit oui. Donc il est heureux de participer, il est heureux de donner son temps à l'église. Et donc à partir du moment où les paroissiens sont d'accord pour monter une activité, il est là, il est présent. Mmh. Et donc, il y a une forme de convivialité qui s'est recréée. Il m'a expliqué qu'au début, quand il est arrivé, vraiment chacune des paroisses était dans des frontières hermétiques et personne ne communiquait. Et aujourd'hui, voilà, il y a des grandes fêtes qui se passent, des repas, des conférences. Et vraiment, il y a toute une vie qui s'est recréée, qui s'est transformée. Et finalement, ces vieilles paroisses et ces vieilles familles protestantes ont su s'ouvrir, bouger et ont permis à leur église et à leur, de continuer à vivre.
Mmh. Vous, dans les prochains numéros, vous allez étudier d'autres ensembles ?
Je pense que régulièrement, je vais essayer de faire le tour, parce que comme le reportage tourne tous les 3 mois avec les 2 autres journaux, je pense que de temps en temps, je vais partir à la découverte d'ensembles ou de paroisses pour donner des exemples, parce qu'il y a des choses très positives qui se passent. On aurait tendance à dire que tout va mal, il y a moins de pasteurs, il y a moins de paroissiens, mais il y a quand même des expériences qui se vivent, des choses riches et positives, et il faut en parler.
Soyons bienveillants.
Soyons bienveillants.
Alors, en écho à votre éditorial, Nicolas Boutier, vous avez un article signé Marjolaine Chevalier qui nous présente 2 reines, Marguerite de Navarre et Jeanne d'Albret.
La mère et la fille. Deux grandes protestantes, s'il en est. La première, sœur de François Ier, qui a découvert les idées du protestantisme, épouse le roi de Navarre. Et c'est sa fille qui va réellement basculer dans le protestantisme quand elle devient reine de Navarre, impose à ses états de devenir protestant. Et c'est vrai que je suis assez content parce qu'on a des vraies femmes engagées, des vraies femmes protestantes. Alors on est d'accord qu'au XVIe siècle, ce sont des femmes proches du pouvoir, enfin ce sont des femmes de pouvoir, des femmes lettrées, qui ont accès donc à la lecture des textes, qui ont accès à une position et qui peuvent donner leur avis. C'est vraiment pas le cas des autres femmes à cette époque-là, il y en a très peu. Mais c'est quand même intéressant. Au début, quand on a fait cette... on a voulu, sur cette page, parler des femmes protestantes, on a dit, oh, on va encore parler des femmes d'eux. Eh bien non, ce ne sont pas des femmes d'eux. Soit l'une est la sœur de François Ier, mais l'autre est reine de Navarre. Elles ont existé et elles ont pris leur décision.
Ouais.
D'ailleurs, Marguerite de Navarre, pardon, avait beaucoup d'influence sur son frère. Et voilà, il y aurait peut-être le royaume de France aurait pu basculer à ce moment-là dans le protestantisme s'il n'y avait pas eu des heurts politiques. Mais voilà, ce sont des femmes qui ont pris leurs décisions, qui ont assumé leur choix.
Des femmes d'influence.
Des femmes d'influence, vraiment.
Nicolas Boutier, l'article que vous signez encore, c'est l'article sur la météorologie sur l'observatoire du Mont Aigoual.
Oui.
C'est amusant de trouver un article de ce type dans le CEP.
Alors en fait, y a deux raisons. Normalement, on me demande de parler d'art, de culture, de patrimoine ou d'histoire protestante. Mais le Mont Aigoual, quand même, c'est le sommet mythique des Cévennes. Et vu tout ce qui s'est passé autour, il est un peu protestant à lui tout seul.
Vous récupérez bien la géographie. Hein.
Un petit peu, je vous l'avoue. Et en même temps, la station de ski qui est juste en dessous, l'Espérou, a été un peu fondée par des protestants. Donc bon
allez.
Allez. Voilà, on détourne un peu la géographie, je vous l'accorde. Mais je trouve que c'est un lieu qui est emblématique. Hein,
Le Mont Aigoual.
Le Mont Aigoual et puis son observatoire qui est accroché là à tout vent, quand on sait les vents terribles qui peuvent souffler jusqu'à 300 km/h, les températures extrêmes qu'ils connaissent, aussi bien en été, parce qu'il fait en été en pleine canicule, il ne fait que 25 degrés au grand maximum. Donc si on veut un peu de fraîcheur, allez au Mont Aigoual. Et c'est surtout que c'est le dernier observatoire météorologique encore habité. Donc voilà, régulièrement les équipes se relaient et vous pouvez supposer, alors en été c'est sympa, on peut descendre, on peut sortir, on peut changer. En hiver, à mon avis, il y a certains moments où ils doivent rester enfermés à l'intérieur et ne plus bouger.
Mmh.
Et donc voilà, c'est un lieu emblématique aussi du parc national hein, qui est autour du Mont Aigoual. Donc voilà, c'était un lieu que j'avais envie de présenter. Mais...
Voilà, écoutez, c'est un article très, très intéressant et très distrayant aussi. Voilà.
C'est ça, distrayant. ça fait du bien, en fait, il en faut aussi.
Il en faut aussi, un peu de bienveillance, encore une fois. Écoutez, Nicolas, j'en ai un peu terminé avec le contenu de votre journal. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Voilà, un petit détail que je n'aurais pas relevé?
En page régionale, je parle du culte des aumôneries à Nîmes. Alors, c'est un peu du teasing parce que le dossier du mois prochain est sur les aumôneries. Et en réfléchissant avec le comité de rédaction, on s'est rendu compte que quand on parle d'aumôneries, qu'elles soient hospitalières, des prisons, des armées, on trouve ça très loin. On ne se pose pas la question. Moi-même, quand j'ai été opéré il y a 2 ans de l'appendicite, je ne me suis pas posé la question si je devais faire venir l'aumônier ou pas. On m'a dit, mais quand on fait venir l'aumônier à l'hôpital, c'est que la fin est proche. Hein,
ouais,
bon. Mais en fait, on peut parler à l'aumônier sans forcément...
Et c'est peut-être une idée reçue.
Je pense que c'est une idée reçue. Et je me dis, voilà, il y a des endroits en fait, où ils arrivent à créer une synergie autour de leurs aumôniers. Et c'est peut-être une idée à garder, parce qu'il faut que ces aumôneries finalement restent présentes, qu'elles ne soient pas un peu en dehors de l'Église et de la vie de l'Église. Il y a des choses extraordinaires qui s'y vivent. Il y a surtout des prises de position, je ne sais pas comment vous expliquer, quand un aumônier de prison vous parle, un aumônier des armées, comme ça on pourrait se dire, oula, mais un aumônier des armées. Mais c'est intéressant, parce qu'ils mettent l'humain au centre de leur aumônerie, et donc voilà, il y a des choses vraiment intéressantes. Et je suis assez content que Nîmes crée vraiment un groupe des cultes autour de leurs aumôneries. Ce n'est pas le cas ailleurs, et voilà, c'est peut-être des idées à prendre, et n'hésitez pas à faire intervenir les aumôniers. Ils se déplacent et ils témoignent facilement de leur vie.
Et donc, ce sera le sujet du dossier du mois prochain.
Du mois d'avril. Du mois d'avril, c'est ça. On va y arriver.
Autre chose ?
Non, après, non. Je laisse à nos lecteurs découvrir les restes des pages. Et puis, ceux qui ne connaissent pas encore le CEP,
voilà.
Il y en a peu maintenant.
Oui, presque peu.
Presque plus. N'hésitez pas à vous abonner. On vous a déjà donné l'adresse. Je vous redonne un numéro de téléphone au cas où.
Oui, le téléphone, c'est précieux.
Vous pourrez contacter Valérie, elle vous répondra avec plaisir. Alors, le téléphone, c'est le 04 66 81 29 63. Voilà, Valérie, vous lui demandez comment s'abonner au CEP, elle vous donnera toutes les informations.
Toutes les infos. Merci Nicolas Boutier.
Merci Guylaine.
À bientôt.
À très bientôt.